Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Cet épisode est commandité par Hatch, fier partenaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie. Hatch est une firme de génie conseil dans les secteurs des mines, de l'énergie et des infrastructures. Depuis plus de 60 ans, Hatch apporte à ses clients son expérience technique et commerciale pour concevoir des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices. Grâce à son implication en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, Hatch a été reconnu 3 années de suite comme un employeur de premier plan en matière de diversité et d'inclusion et figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada. Merci à Hatch pour son précieux soutien. Bienvenue dans la deuxième saison de Communiquer au féminin, un balado par la chaire pour les femmes en sciences et en génie et animé par Léa Museau et Joël Pelletier-Nollet.
Au travers des épisodes, on vous amène à découvrir des parcours, des projets, des succès en sciences et en génie qui vous sont communiqués au féminin.
Nicole Saint-Louis est professeure titulaire et directrice du département de physique à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les vents stellaires d'étoiles massives et les traces que ces derniers laissent sur le gaz interstellaire environnant. Elle s'intéresse plus particulièrement aux structures à petite et grande échelle qui se développent dans les vents stellaires et qui sont le reflet de phénomènes physiques qui se produisent à la surface de l'étoile, enfouis profondément sous l'écoulement opaque. Bonjour Nicole, merci d'être là avec nous aujourd'hui.
Bonjour Nicole.
Bonjour.
Nicole, on a fait un peu ta présentation juste avant. Donc, toi, tu es chercheur en astrophysique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Bien, suite à mes études en sciences au Cégep, j'ai décidé de faire un baccalauréat en physique. Donc, j'ai fait ça à l'Université de Montréal. Ensuite, je n'étais pas tout à fait prête à ce moment-là à quitter pour les études graduées. Donc, j'ai fait une maîtrise ici à l'Université de Montréal aussi. Et par la suite, j'ai fait un doctorat à Londres, en Angleterre. Donc ça, c'était vraiment une période très, très plaisante de ma vie. Ensuite, j'ai obtenu un stage postdoctoral de retour ici au Québec, à l'Université de Montréal. Et ensuite, je suis devenue professeure en 1993, là, ici, à l'Université de Montréal. Donc j'ai eu un parcours assez linéaire, disons.
Et comment a réagi ton entourage quand tu t'es tournée vers le domaine de l'astrophysique?
Ça s'est fait graduellement. Je réussissais bien à l'école au secondaire, donc personne n'a vraiment été surpris quand je me suis dirigée vers les sciences en général. Puis c'est seulement durant mes études collégiales que j'ai vraiment réalisé qu'on pouvait faire une carrière en astrophysique et vraiment gagner sa vie comme ça. Donc, je me suis d'abord dirigée en physique et puis tout doucement, après la physique, en astrophysique. Quoique, en secondaire 5, j'avais quand même côtoyé ou j'avais été ce qu'on appelait à l'époque les orienteurs et j'avais trouvé un document sur l'astrophysique et c'est juste un petit dépliant. Et en bas, à la fin, c'était écrit « Très peu de débouchés ». Alors, ça m'a un peu refroidi à l'époque, mais sur le coup... Mais c'était vrai. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis dirigée. Mais ça s'est fait tellement doucement. Il n'y a pas vraiment eu de réaction majeure, là, de surprise ou quelque chose comme ça. Là.
Est-ce que tu as déjà vécu des obstacles qui étaient liés à ton genre au cours de ton parcours? Et si oui, lesquels?
Ben, je vais répondre à votre question un petit peu différemment. Donc, à une question un peu légèrement différente. Je vais répondre à la question « Ai-je eu conscience d'avoir eu à franchir des obstacles reliés à mon genre? » Un petit peu différent qu'une question. Puis la réponse, ben c'est non. À l'époque, on était tous conscients que c'était en fait un privilège de pouvoir devenir astrophysicien de manière générale ou prof dans une université, prof de physique en fait. Et donc, c'était très difficile. Et donc, si j'ai eu à faire face à des obstacles supplémentaires, ben c'est difficile à dire pour moi. Là. Il y a 35 ans, on n'était pas trop au courant de l'existence de ce qu'on appelle aujourd'hui les biais inconscients. Donc, puis que même, on ne s'en rend pas compte, mais même nous, les femmes, on en a aussi, là, on est conscient de ça. Mm-hmm. Donc, si j'ai eu à traverser d'autres obstacles, donc, tu sais, j'avais plutôt tendance à me dire, ben là, il faudrait que je travaille plus fort si j'avais eu un revers ou quelque chose comme ça. C'était plus tendance à se blâmer soi-même, là, à se dire, ben là, probablement qu'il faut. Qu'il faut travailler plus fort ou, tu sais, bon, c'est ça, travailler plus fort pour mieux réussir. Là, tu sais, je ne sais pas si ça serait vu comme un réflexe un peu plus féminin, mais bon, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Quand tu as commencé à travailler comme professeur, est-ce qu'il y avait des femmes dans ton département?
Ben, quand j'ai commencé comme professeur comme tel en 93, il y avait une femme professeure et une autre femme qui, vous allez peut-être être surprise, une femme transgenre. Donc, ça, c'était il y a longtemps, là. Mais je ne suis pas certaine si cette personne-là avait déjà pris sa retraite, mais tu sais, je veux dire, sinon, ça ne faisait pas longtemps. Donc, il y avait deux femmes, disons, dans le département. Mais il n'y en avait pas en astrophysique. Donc, c'était pas vraiment je côtoyais pas vraiment de près ces femmes-là. Donc, c'était très peu.
OK. Puis, donc, il y en avait juste deux. Puis, vous, comment vous viviez le fait d'être dans un environnement majoritairement masculin à l'époque?
Bien, depuis que j'avais fait mon bac en physique, ben j'étais pas mal habituée de côtoyer majoritairement des hommes, là. Donc, j'étais vraiment habituée à cet environnement-là. Je voyais pas vraiment ça comme un problème. En fait, moi, je comprenais pas vraiment pourquoi il n'y avait pas plus de filles en physique. Là. Pour moi, en fait, je ne suis même pas sûre que je comprends encore aujourd'hui pourquoi pourquoi il n'y a pas plus de femmes en physique. Moi, j'ai choisi ce domaine-là simplement parce que j'aimais ça. Donc, j'ai jamais vécu de l'inconfort. Me suis jamais sentie mal ou quelque chose comme ça. J'étais confortable là, dans cet environnement-là parce que, en fait, je m'étais habituée.
D'un certain sens, tant mieux. Hein? Comme
oui,
ça, vous avez pu persévérer puis continuer.
Ouais.
Puis est-ce que vous pensez qu'il y a des efforts à faire en astrophysique pour qu'il y ait plus de place pour les femmes dans ce milieu-là?
Je me rends compte que peut-être qu'une partie de la réponse, c'est que toutes les filles ne sont pas comme moi, là, puis qu'ils ont peut-être besoin peut-être de... Donc, moi, mon choix a été fait juste parce que j'aimais le domaine, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin plus de s'identifier à des personnes en poste ou des personnes avec plus d'expérience. Donc, c'est certain je pense que d'être présente en tant que femme dans ces domaines-là, ça aide sûrement, là.
Ouais, c'est sûrement, ouais. Comme vous avez dit, il y a un manque de modèles s'il y a très peu de femmes dans votre domaine. Puis en général, les filles sont comme pas poussées à aller dans certains domaines comme le génie ou certains domaines de sciences. Donc,
Oui, puis je pense que c'est la méconnaissance aussi. Hein. Déjà, juste la physique, c'est très méconnu du public en général. Donc, c'est difficile d'attirer... Des gens. Il y a déjà beaucoup moins de monde qui s'en vont là-dedans. Puis, ouais, ça aide pas, mettons.
Comme je disais, j'ai pas eu besoin de modèle. Je me suis juste en allée là-dedans. Mais je suis consciente que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde.
Mm-hmm. C'est la passion qui vous a mené là.
Oui, c'est ça, je pense. Ouais. Peut-être la naïveté aussi. On y va.
Les organismes de financement fédéraux et provinciaux, ils reconnaissent plusieurs groupes désignés dont les femmes y font partie. Ces groupes, ils ont été définis pour apporter une attention particulière aux mesures d'équité qui les concernent, mais il arrive parfois que les personnes qui appartiennent à ces groupes ressentent un sentiment d'imposture lorsqu'elles accèdent à ces financements. Est-ce que c'est une situation que vous avez déjà vécue ou observée?
Ben moi, je pense que j'ai été dans les premières à bénéficier de mesures, de telles mesures, il y a à peu près 30 ans, parce qu'à l'époque, il y avait un programme qui s'appelait un programme de chercheurs boursiers, qui était un peu pour fournir un financement, disons, intermédiaire entre le postdoc, disons, et la carrière universitaire. Et à ce moment, ils ont créé un programme qui s'appelait Professeur boursière, donc réservé pour les femmes. Donc, j'ai appliqué à ça au lieu d'appliquer à l'autre programme. Et j'ai quand même, j'ai réussi à obtenir ce financement-là. C'est certain qu'au début, je me sentais mal. Je me disais, bon, c'est sûr, là, c'est un programme juste pour les femmes. Donc, j'ai eu tendance un peu à être un peu, à me sentir un peu imposteur. Sauf que quand j'ai reçu la lettre m'annonçant le financement, c'était inscrit sur la lettre que le taux de succès était de 17 %. Ce qui était extrêmement bas. Et moi, j'étais au courant que le taux de succès pour l'autre programme était au moins le double, donc 35 %. Donc, pour moi, ça a été... je me suis dit, bon, ben, je ne l'ai pas volé, ce financement-là. Il a été difficile à obtenir.
Wow.
Sauf que je suis convaincue que moi, j'étais... Que beaucoup de gens autour de moi n'ont pas réagi comme moi, là, qui ont pensé, ah, ben là, c'est certain, là, ce financement-là, il devait être facile... à obtenir, donc je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que j'ai eu un passe-droit ou quelque chose comme ça. Mais moi, dans le fin fond de moi, dans ce cas-là en particulier, je me sentais pas si imposteur que ça, malgré mon premier réflexe, là. Donc, mais c'est certain qu'à l'époque, il y a 30 ans, là, les gens devaient dire, l'entourage devait penser, ah, oh, bon, ben, c'est un programme spécial, c'était facile à obtenir, c'était juste pour les femmes. Mais le taux de succès avait été 17 %, donc moi, je savais dans le fond de moi que c'était.
Et comment tu penses qu'il serait possible de reconnaître l'expertise de ces personnes, justement, qui peuvent se sentir, elles, impostrices de recevoir ces financements?
Ben, peut-être justement en rendant les, je veux dire, en donnant l'information aux filles qui obtiennent ces subventions-là que c'est pas si facile malgré que c'est réservé pour les femmes parfois ou que il y a des mesures qui sont en place pour enlever les biais de genre que c'est quand même difficile et donc donner l'information aux femmes, par exemple, que les subventions moyennes que les femmes obtiennent sont plus basses en général, c'est des choses que moi, je ne savais pas. D'apprendre ça, ça m'a surpris et ça me dit que, bon, c'est peut-être une bonne chose d'avoir au moins de conscientiser les gens sur les biais qui existent. Mais juste donner l'information, comme moi j'ai eu par exemple que le taux de succès avait été très bas dans le cas de ma subvention, ben ça, déjà ça nous rassure, puis ça nous peut-être que ça va nous encourager à parler plus là, au lieu de se dire ah, ben, je l'ai volé, je vais rester tranquille, j'ai pas vraiment mérité cette subvention. Donc si on a l'information, parce que je crois pas vraiment moi que c'est beaucoup plus facile pour les filles là, d'obtenir des subventions.
Comme vous dites, c'est un peu de montrer, en fait, que c'est pour les compétences qui ont été choisies et non parce qu'elles sont des femmes. Tu sais, c'est pas toutes les femmes dans ces... ou toutes les personnes des groupes désignés qui ont utilisé ces mesures-là qui vont les avoir reçues, ces mises en place-là. C'est seulement, dans le fond, de la promotion pour aller chercher des candidatures, mais ensuite de ça, c'est tout aussi difficile que n'importe quel autre concours. Donc, mais il faudrait que ça soit plus clair, plus transparent, puis qu'on le dise aux personnes qui ont reçu le financement, finalement. C'est ce que je comprends de votre réponse.
Donc, l'information, oui.
Penses-tu que les financements sont aujourd'hui plus accessibles aux femmes?
Je ne sais pas vraiment. Mon point de vue, c'est que c'est tellement difficile d'obtenir du financement à un niveau approprié. Point. Donc, je ne sais pas vraiment si les critères d'évaluation reliés à la diversité ou au genre aident vraiment. Je crois que les projets sont évalués à ce qu'on appelle aujourd'hui au mérite, mais avec tous les biais que ça implique en plus du genre. Donc, c'est certain que j'ai vu des, comme je disais tantôt, j'ai vu des études qui indiquaient que les fonds de recherche obtenus par les femmes étaient plus bas que celui des hommes. Mais donc, je me dis qu'il doit y avoir des biais de genre, parce que le processus d'évaluation des demandes de subventions, c'est pas complètement impartial, malgré ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'il y a de la subjectivité dans le processus. C'est difficile de savoir si ces biais-là ont disparu. C'est sûr que d'en prendre conscience, c'est fantastique, là. Mais Puis je n'étais pas vraiment consciente qu'il y a un biais particulier en astrophysique dans mon domaine. Le nombre d'étudiantes en astrophysique au cycle supérieur est assez élevé. Je sais qu'à un moment donné, on avait même 50 %, donc c'est vraiment élevé.
Wow.
je ne peux pas dire qu'en astrophysique, on a une situation particulière. En physique, en général, oui. Comme je vous dis, dans tous les autres domaines de la physique, il y a juste deux filles. Tu sais, quand il y a tellement d'obstacles, d'en enlever un, je ne sais pas vraiment si ça fait une différence. Mm. On verra avec les chiffres plus tard.
C'est ouais. peut-être un peu tôt pour le savoir maintenant, hein, dans le fond. Peut-être ouais. que ça fait juste quelques années là, que c'est mis en place, hein, puis c'est ouais. même pas encore obligatoire non plus. Donc, on le verra peut-être dans le futur si ça va avoir eu un impact. Puis aussi, souvent, les notions d'équité, de diversité et d'inclusion en recherche sont prises en compte dans l'évaluation des demandes. Donc, on en a parlé un petit peu, mais on dit des fois que dans certains domaines, sont plus difficiles à appliquer en recherche. Puis on donne souvent l'astrophysique comme exemple. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile d'appliquer les valeurs des DI en astrophysique?
En général, quand il y a les moyens, quand on donne les moyens aux équipes de recherche, ben, je pense qu'on fait plus attention à ces choses-là. Juste le fait d'en être plus conscient, je pense que ça, c'est une bonne chose. Là. Ça va nous aider. Puis je voudrais mentionner aussi que le DI, c'est pas juste le genre, à mon avis, c'est aussi des enjeux de classe sociale, entre autres.
Tout à fait.
Moi, je pense que dans ma carrière, moi, j'ai été plus désavantagée du fait que je suis ce qu'on appelle une transfuge de classe. Donc, je ne venais pas du milieu universitaire. Mes parents n'étaient pas des universitaires. Donc, mais il y a tellement de choses comme ça qui entrent en jeu.
Aussi, on voit de plus en plus souvent de jeunes filles qui sont intéressées par l'espace, par la NASA, grâce à l'influence de modèles comme Farah Libé. Qui est ingénieure, elle, en génie aérospatial. Selon toi, comment on peut faire en sorte de donner plus de visibilité aux femmes en sciences ou en génie pour que les jeunes filles puissent s'y identifier?
C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que, comme je vous l'indiquais plus tôt, je n'ai pas vraiment eu besoin de modèle pour choisir mon domaine, mon parcours académique. Mais je constate, entre autres, avec l'engouement pour Farah Libé, que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, je pense que c'est important d'avoir des modèles féminins, d'en parler. Je pense en fait que les toutes jeunes filles, si on parle des jeunes filles au primaire, par exemple, sont toutes aussi intéressées aux sciences que les garçons. Et puis, il y a quelque chose qui se passe entre l'école primaire et le fait de choisir soit les études à l'université en physique ou quelque chose comme ça. Que je n'arrive pas à cerner. J'ai aucune idée pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les filles ne font pas ce choix et que les garçons le font. Puis en fait, j'ai bien hâte de prendre connaissance des résultats de l'étude qui va se faire à l'intérieur de la chaire de recherche dans laquelle vous œuvrez pour avoir des éléments de la réponse. Mais moi, je pense que ça se passe assez jeune, là, quand même, la bifurcation du parcours. Puis c'est difficile pour moi de dire que c'est juste une question de modèle. Est-ce que les filles se désintéressent des carrières scientifiques parce qu'elles n'ont pas de modèle? C'est sûrement un élément, mais est-ce que c'est l'élément le plus important? Il faudrait qu'on passe en entrevue des toutes jeunes filles pour savoir pourquoi elles ont changé leurs intérêts, tandis qu'elles étaient toutes aussi bonnes ou toutes aussi capables et même souvent meilleurs à l'école ou capables de réussir dans leurs études. Alors, pourquoi ils ne font pas le choix? C'est ça qui m'intrigue, en fait.
Bien, c'est ça. C'est intéressant parce qu'on va faire une étude sur les étudiantes qui sont au cégep en sciences de la nature. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont à 50 % dans les sciences de la nature au cégep, mais que rendues à l'université, bien, on ne sait pas où est-ce qu'elles s'en vont. Elles s'en vont soit dans les sciences de la santé ou bien, des fois, elles retournent plus souvent aux sciences humaines. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont choisi d'aller en sciences nature puis qu'ensuite, ils se sont redirigés ailleurs et non dans les sciences ou dans le génie. Donc ça, on a hâte d'avoir ces informations-là.
Oui, parce que c'est vraiment... Mais moi, je suis déjà surprise d'entendre qu'il y a 50 % de femmes au cégep en sciences nature. Oui. Mais je vous encouragerais à essayer de savoir déjà à ce stade s'ils ne sont pas déjà en sciences nature parce qu'ils veulent s'en aller dans le domaine de la médecine.
La plupart du temps, oui, je pense, effectivement.
On aurait bien que la réponse, c'est oui. Donc, ma réflexion, c'est que ça se passe, pour ce qui est de la physique, des sciences très fondamentales, ça se passe même avant ça. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus tôt que ça. Là. Pourquoi, tout à coup, ils pensent qu'ils ne seraient pas capables ou ils ne voient pas que c'est une carrière pour eux? Mm-hmm. On revient aux questions de modèle, là, mais j'ai de la misère à me convaincre que c'est juste une question de modèle. C'est peut-être parce que ça s'est pas appliqué à moi, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de fondamental. J'ai bien hâte de voir les résultats de vos recherches.
Mais il y a sûrement aussi d'autres explications. Des fois, on parle du climat de travail, donc qui va être différent si le domaine est majoritairement masculin. Ça va être plus difficile pour des femmes de trouver leur place, puis elles vont peut-être avoir tendance aussi à s'habituer à ce climat de travail-là, qui c'est un peu un cercle vicieux, ça va pas comme aider d'autres femmes à rejoindre l'environnement de travail, par exemple. Je sais pas si toi, Joël, t'avais d'autres éléments de réponse.
Oui, ben quand on parle de modèle, on peut aussi parler de modèles parentaux. Donc, si les parents encouragent d'aller vers une certaine voie ou découragent d'aller vers une autre. On peut parler aussi des modèles, tu sais, les amis. Je pense qu'au secondaire, hein, la vie de nos amis est très, très, très importante. Donc,
ouais.
Donc des fois, il y a peut-être de l'influence de ce côté-là également. Il y a la méconnaissance aussi de ce qu'on peut faire en sciences et en génie, en fait, des emplois. Puis également, la méconnaissance envers qu'est-ce qui est... de la recherche, c'est quoi? On a l'impression que souvent, ça prend des gens qui sont très, 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 très intelligents. Et les femmes, on a tendance à se sous-estimer. On a tendance à avoir moins confiance en nous et de penser qu'on n'est pas si intelligente que ça. Donc, je pense que c'est tout plein de facteurs. Puis effectivement, c'est pas juste... quelque chose qui est en lien avec les modèles, là, comme tu soulignes, Nicole. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec ça.
Le syndrome de l'imposteur, je crois qu'il est beaucoup plus présent auprès des femmes que des hommes. Là. L'homme va parler avec grande confiance d'un sujet qui n'est peut-être pas nécessairement très au courant, tandis que la femme ne va pas vouloir trop s'avancer ou va être beaucoup plus modeste. Donc.
Si on réfléchit au primaire, puis même avant, je pense aussi aux jouets, par exemple. Souvent, les jouets avec des voitures. Donc, moi, ça me fait penser plus au génie. Ça va être très orienté pour les garçons plus que pour les filles.
Moi, dans ma famille, c'est ma fille qui est en génie physique et mes deux garçons. Il y en a un en biologie, puis il y en a un qui est enseignant au primaire. C'est vraiment pas ce que j'ai expérimenté. Mais peut-être, en fait, moi, quand je regarde cette situation-là, je me dis, ben c'est peut-être l'exemple où... que sans m'en rendre compte, que j'ai donné. On ne s'en rend pas compte en tant que parent, nécessairement.
Mm. Puis justement, en lien avec ça, selon toi, y a-t-il des meilleures façons de susciter ou de soutenir l'intérêt des étudiantes en l'égard des sciences, mettons, en lien avec ta fille? Y a-t-il quelque chose qui s'est produit de ce côté-là?
Pas vraiment. En fait, je pense qu'il faut vraiment, ce qu'on vient de discuter, là, il faut vraiment tenter de comprendre... Pourquoi, quel est l'élément principal qui font en sorte que les filles ne choisissent pas une carrière scientifique? Je pense que répondre à cette question-là, ça va être très important si on veut premièrement les attirer à un niveau plus, tout au long de leur vie, pas juste quand ils sont très jeunes ou ils sont très curieuses et très intéressées. Et donc, identifier quel est l'élément, si c'est une question de confiance ou... parce que dans le fond, moi je vois aussi la dichotomie entre le bac et les gens qui choisissent vraiment de faire une carrière. Et puis c'est peut-être relié un peu avec ce qu'on a parlé tantôt, le milieu de travail, le milieu de la recherche. le domaine d'être professeur à l'université, c'est quand même un milieu très compétitif. On est constamment évalué. On va être évalué comme professeur jusqu'à la dernière année qu'on enseigne. C'est quand même stressant. On est évalué en tant que chercheur à chaque fois qu'on dépose une demande de subvention, avec tous les revers que ça peut vouloir dire aussi. Donc, il y a peut-être des filles qui se disent « ben moi, ce milieu-là, ben ça ne m'intéresse pas vraiment ». Et moi, je me dis que ces filles-là qui sont super intelligentes, tout ça, très bonnes, ils se disent peut-être, ben je peux faire n'importe quoi que je veux, pourquoi je m'en irais dans un milieu qui est si stressant, je vais m'en aller dans un autre domaine qui est très valorisant et très plaisant. Donc, le milieu de la recherche, c'est quand même un milieu particulier, et donc, il faut vouloir s'embarquer là-dedans. Puis, bon, il y a des filles qui sont comme ça, peut-être, mais même des gars aussi, c'est de plus en plus, là. Donc, d'être conscient que... En fait, c'est tout le milieu qui est comme ça, là. Je prétends pas qu'on pourrait le changer facilement, mais c'est toujours comme ça quand on est dans un milieu où les ressources sont limitées, les fonds de recherche, etc. Ça mène à des situations très stressantes.
Mm-hmm.
C'est peut-être un élément de la réponse aussi, surtout au niveau de la différence entre le bac, disons, où il y a à peu près 30 % de filles en physique. Et comme là, par exemple, nous, en physique, on est 5 profs sur 35, donc 14 % 15 % Donc, il y a quand même un facteur 2 là, à aller chercher. Mais je suis confiante que ça, c'est quelque chose qu'on va régler avec le temps. Là. Je pense que de plus en plus, on a des... En fait, les candidates que l'on a engagées, à mon avis, récemment, les jeunes profs qu'on a, c'est pas vraiment... c'est juste qu'ils étaient tellement exceptionnels, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'ils étaient des femmes. Là,
non, c'est
donc...
ça. Donc, c'est ça, vous avez aussi soulevé l'idée que ben, le milieu de la recherche, dans le fond, vu que c'est un milieu particulier, autant les hommes que les femmes, peut-être ne veulent pas aller dans ce milieu-là. Donc, si on modifie un peu, si on change la culture du milieu, si on le rend un petit peu plus accueillant pour tout le monde, on aura plus de gens qui vont venir, donc en même temps, plus de diversité de genre, mm-hmm. Diversité
en général.
En général.
Ouais, mm-hmm. Ouais. Puis c'est probablement la même chose dans les domaines médicaux aussi, puis même probablement plus encore plus compétitif. Donc, peut-être de faire réaliser aux filles que la recherche en physique, c'est pas différent de la recherche en d'autres choses. Puis on n'est pas, je veux dire, on a des interactions. Un élément qui est peut-être important, c'est les filles, peut-être qu'on aime plus avoir des relations humaines pendant notre travail. Donc, mais on en a amplement là, en physique, puis c'est peut-être pas la vision que les gens ont. Là. On travaille dans des équipes, on côtoie des collègues à l'international, on participe à des conférences. Donc, il y a beaucoup d'interactions humaines quand même. Là. C'est pas nécessairement simplement du travail isolé en laboratoire que les gens pourraient s'imaginer. Donc, démystifier un peu, effectivement, qu'est-ce que c'est le travail. C'est important.
C'est vrai, c'est un bon point, c'est ouais. Nicole.
Pour finir, ma dernière question, ce serait de savoir, est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire particulièrement?
Bien, je vais peut-être vous décevoir, mais je n'ai pas vraiment personne en particulier qui m'inspire. En fait, c'est plutôt toutes les femmes qui suivent leurs rêves, leurs passions, dans leur choix de carrière. Oui, des femmes comme Farah Alibé, on a entendu son histoire, mais d'autres femmes qui, à leur époque, ont vraiment fait ce qu'elles aimaient, comme Cécilia Payne, par exemple, ou Jocelyne Bell-Burnell, ou Henrietta Leavitt, des femmes qui ont fait de l'astrophysique parce qu'elles aimaient le domaine et ne se sont pas souciées de « Ah, oh, ben, il n'y a pas de femmes là-dedans, je ne devrais pas m'en aller là-dedans ». Donc, toutes les femmes qui vraiment n'hésitent pas à suivre leur passion. Là. Donc, c'est plus ça qui m'inspire, moi.
C'est une excellente réponse. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous sur ce podcast. Ce fut très agréable de jaser avec toi.
Merci, Nicole.
Merci.
Hey, c'était intéressant cet échange-là avec Nicole parce que c'est un discours qui change, fait que j'ai trouvé ça intéressant. Toi, qu'est-ce que t'as retenu, Joël, de cet échange?
Moi, j'ai retenu que Nicole malgré qu'elle venait d'un milieu social plus modeste, ça l'a vraiment pas empêchée d'aller à l'université, poursuivre sa passion envers les sciences et la physique. Donc, on voit que depuis toute jeune, depuis le secondaire, c'est vraiment ce qui l'a interpellée. C'est vraiment la passion envers les sciences et la physique qui l'a menée jusqu'où elle est aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, en plus, elle a transmis sa passion à ses enfants, donc en disant que sa fille est en génie physique, un de ses fils est en biologie. Donc, je trouve ça super beau, là, une histoire de famille. Toi, Léa, qu'est-ce que tu en retiens de cet échange?
Bien, moi, j'ai été intéressée par ce qu'elle a dit lorsqu'elle a reçu son financement au début de sa carrière. Elle avait comme reçu une lettre qui disait qu'il y avait 17% de réussite, puis que ce chiffre-là l'avait marqué, puis un peu encouragé à se dire « Oh, ben finalement, c'était pas si facile que ça, même si c'était un financement réservé aux femmes. » Donc, ça a un peu empêché le fait que son mérite soit diminué. Pour les autres groupes désignés aujourd'hui, je pense que ce serait important de mettre en place des stratégies pour leur montrer que leur mérite n'est pas diminué, pour pas qu'ils se sentent étiquetés par le groupe auquel elles appartiennent. Que ces personnes-là soient récompensées pour leurs compétences et pas forcément par le fait qu'elles appartiennent à une certaine diversité. On vous remercie d'avoir écouté notre épisode et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode de Communiquer au féminin.